Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute d'Alter Echo, le 20e numéro déjà, Olivier au micro. Alter Echo, c'est tous les mercredis soirs de 22 à 23h, la rediffusion c'est tous les vendredis après-midi de 14 à 15h. Il y a également le site internet que vous pouvez retrouver à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un mot. Cette semaine, nous parlerons un peu d'actualité et beaucoup de pétrole, de domaines qui ont de toute façon tendance à présenter quelques points d'intersection. Côté actualité, c'est de la Macédoine qu'il sera question. Les braises du feu balkanique ont tendance à se rallumer, mais la presse ne se décide toujours pas à nous expliquer les enjeux profonds et notamment pétroliers qui se cachent derrière ces tensions. Nous en parlerons avec le journaliste Michel Collomb. Nous parlerons ensuite du Soudan, où l'industrie pétrolière fait indirectement des ravages parmi les populations. Nous verrons tout le cynisme dont sont capables les grandes compagnies pétrolières. Et pour rester encore un peu dans l'exotisme, nous irons également jeter un coup d'œil en Turquie pour parler des suites de l'assaut sur les prisons, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans Alter Echo. Un rapport officiel sur cet assaut a été publié, mais à peu près personne n'en parle. Et pour terminer, quelques nouvelles des zapatistes dont nous parlions la semaine dernière. Mais commençons donc par l'actualité brûlante avec l'embrasement potentiel de la Macédoine. Depuis quelques semaines, la tension remonte dans les Balkans et elle continue à se déplacer toujours un peu plus vers le sud-est. Ça avait commencé il y a une dizaine d'années en Slovénie et en Croatie. La guerre avait ensuite déménagé vers la Bosnie voisine où elle s'était attardée plus que de raison. Après une période d'accalmie, un déluge de feu s'était abattu il y a 2 ans sur la Serbie et le Kosovo. Et à présent, c'est pour la Macédoine que l'on craint. Ce qui se passe sur le terrain, c'est pas compliqué à savoir, puisqu'il suffit de lire ou d'écouter les médias pour le savoir. En résumé, les combattants de la liberté que l'OTAN avait soutenus et armés pour libérer le Kosovo, à savoir les Albanais de Luceka, se sont mués soudainement en de vilains extrémistes albanais qui veulent décomposer la pauvre petite Macédoine que les États-Unis soutiennent depuis son indépendance en 1991. Les extrémistes albanais en Macédoine sont en partie ceux qui se sont battus au Kosovo, plus un bon nombre de nouvelles recrues, et leurs armes viennent très clairement de Luceka et ont donc été financées par les puissances occidentales. Ça rappelle un peu les talibans qui étaient combattants de la liberté lorsqu'il s'agissait de bouter le russe hors d'Afghanistan, avant de devenir des fous religieux qui emmitouflent leurs femmes et qui font sauter le patrimoine culturel mondial. En Macédoine, les Albanais représentent une minorité importante, environ 30% de la population. Ils ne sont pas franchement opprimés, puisqu'il y a par exemple des partis politiques albanophones, dont certains font même partie de la coalition au pouvoir. Pourtant, ils se sentent traités comme des citoyens de seconde zone. C'est vrai que leur place dans la société laisse quelque peu à désirer, et notamment que la minorité albanophone n'est pas reconnue dans la constitution macédonienne. Il y a aussi le fait que la situation économique des Albanais est catastrophique, avec un taux de chômage de près de 60%. Mais globalement, la situation n'a vraiment rien à voir avec l'oppression serbe de la majorité albanaise du Kosovo. Seulement, le coup de force de Luceka et de l'OTAN au Kosovo a bien entendu donné des idées aux Albanais de Macédoine. De plus, les éléments les plus combatifs de Luceka s'étaient retrouvés un petit peu désœuvrés après avoir purifié leur pays d'une bonne partie de ses habitants serbes après la guerre. Donc, il était presque inéluctable que la tension s'installe tôt ou tard en Macédoine. Alors que la tension devient de plus en plus vive, l'opinion mondiale commence à se demander si vraiment il existe un gène balkanique de la violence et si la guerre s'arrêtera un jour dans cette région d'Europe. En effet, lorsqu'on lit la presse, on se demande ce qui peut bien pousser ces différents peuples à tant de haine et aussi ce qui peut bien inciter les États-Unis et l'OTAN à s'intéresser de si près à ce bout d'Europe alors que personne n'intervient dans d'autres parties du monde beaucoup plus meurtrières et beaucoup moins complexes. Lorsqu'on lit nos journaux, les rares analyses qu'ils font de la situation ne nous apprennent pas grand-chose à ce sujet-là. Par exemple, lorsque dans Le Soir, Edouard Van Veltem se fend d'une tentative d'analyse, il se pose la question de savoir quelle est l'attitude de la communauté internationale. Pour y répondre, il reste dans le vague en expliquant qu'il y a un mélange parfois confus de diplomatie et de fermeté. Il oublie de se souvenir du fait que hier, les Serbes étaient tous des crapules, à tel point que l'OTAN pouvait bombarder indifféremment civils et militaires, alors qu'aujourd'hui ce sont des alliés qu'on appelle à la rescousse. Il ne rappelle pas plus que les Albanais qui posent problème aujourd'hui sont à peu près les mêmes que ces agneaux qu'il fallait sauver des griffes du loup au nom du sacro-saint droit d'ingérence humanitaire. Au lieu de détailler tout cela, il préfère une formule tout à fait cryptique et vague. Il constate la mise en place d'un rééquilibrage de la vision stratégique régionale. Ça veut à la fois tout dire et rien dire. Pour le reste, on lit entre les lignes ou dans des citations qu'il est peu crédible que le Kosovo et sa frontière avec la Macédoine, qui sont des territoires contrôlés par les forces de l'OTAN présentes en grand nombre, voient circuler librement les extrémistes albanais, mais ce n'est jamais dit explicitement et personne n'en tire évidemment la conclusion que l'OTAN laisse peut-être faire délibérément les Albanais. La Libre Belgique est un peu moins avare de commentaires et d'analyses, mais ça ne change rien à l'affaire. Pour Christophe Lanfalussy, la radicalisation des Albanais de Macédoine est, je cite, peut-être liée à des maladresses de l'armée de Skopje et à l'affaiblissement du parti albanais au pouvoir. Évidemment, rien à voir avec le fait que l'OTAN ait fourni les armes et ait créé un précédent au Kosovo voisin. Dans le même commentaire, Lanfalussy effleure le sujet de l'épuration ethnique du Kosovo après la guerre en disant que certains Albanais soulignent par des attentats commis contre les Serbes leur volonté de bâtir un Kosovo ethniquement pur. Voilà un soulignement qui porte ses fruits puisque la terreur albanaise a fait après la guerre des centaines de morts et des dizaines de milliers de réfugiés parmi les Serbes du Kosovo. La seule fois où le même journaliste semble égratigner l'OTAN, c'est lorsqu'il souligne la réaction fort molle de l'OTAN face aux événements de ces dernières semaines. C'était assez naïf ou diaboliquement cynique, conclut-il, sans réellement se mouiller. Pour le reste, on a droit à des analyses de l'évolution probable du conflit, des forces en présence ou du nationalisme albanais, mais jamais rien qui permette de saisir des enjeux bien plus importants qui pourtant existent bel et bien. Lors de la guerre du Golfe, une partie de l'opinion s'était indignée du fait que l'on fasse la guerre pour du pétrole, même si les Américains prétendaient que cette guerre était humanitaire. Au moment où se profilait la guerre du Kosovo, l'OTAN avait évidemment beau jeu de souligner que cette fois-ci, la guerre devait forcément être humanitaire, puisqu'il n'y a pas de champs pétrolifères dans la région. Et pourtant, le pétrole et le gaz sont bel et bien des enjeux dans les guerres des Balkans. Comme va nous l'expliquer le journaliste Michel Collomb, qui est un observateur très attentif et engagé des crises balkaniques, il m'a expliqué par téléphone quels sont les enjeux énergétiques de la région et pourquoi le Kosovo, par exemple, n'était pas du tout une guerre humanitaire. Avec toutes mes excuses pour les petits couacs de la liaison téléphonique, mais rassurez-vous, tout reste compréhensible.
Je pense que ce n'était pas une guerre humanitaire pour deux raisons. La première, c'est que on voulait de toute façon mettre à genoux la Yougoslavie, qui avait une économie beaucoup trop collective et un cours économique qui prétendait résister au FMI, aux multinationales et à la globalisation et tout ça. Et deuxièmement, je pense qu'il y a quand même du pétrole, mais un peu plus loin. Si on regarde une carte géographique, les Balkans et particulièrement le Kosovo et la Macédoine, qui sont le carrefour de toutes les routes importantes dans les Balkans, sont l'accès stratégique vers la route du pétrole, où il y a des réserves non seulement au Moyen-Orient, mais aussi, on en parle beaucoup trop peu, dans le Caucase, la mer Caspienne, plus loin encore le Kazakhstan, non seulement du pétrole, mais aussi du gaz, qui va prendre un rôle économique absolument prépondérant. Et ce que j'ai montré dans mes livres, c'est que justement, toute la stratégie des grandes puissances est basé sur le fait que les multinationales américaines et d'autres, mais particulièrement les américaines, veulent prendre le contrôle de ce pétrole, de ce gaz, et ce qui est très important, de la route qui permet d'acheminer ce pétrole et ce gaz vers l'Europe. Si on regarde une carte, on voit qu'il y a des guerres partout où il y a une route vers le pétrole. Premièrement en Tchétchénie, où il y a un pipeline russe qui amène ce pétrole depuis la Caspienne, Bakou, jusqu'à la mer du Nord. Deuxièmement, en Géorgie, Nagorno-Karabakh, pardon, là aussi des incidents à répétition. Et la troisième route possible, ça serait, c'est un projet celui-là, c'est un projet américain, beaucoup plus cher, qui passerait par le Kurdistan, troisième guerre, et les multinationales américaines poussent ce projet-là parce qu'évidemment, il leur permettrait de s'appuyer sur les démocrates bien connus que sont les généraux turcs et il leur permettrait de mettre complètement hors jeu la Russie dans cette région. Et si on prolonge un peu plus la carte vers l'ouest pour arriver vers l'Europe, on voit qu'il y a un projet. En fait, il y a deux routes qui s'affrontent. D'une part, la route la plus normale serait par la Roumanie, Constanța, et puis par la Yougoslavie, Belgrade, et de là le Danube, qui est un fleuve très long, très navigable, et c'est une voie d'avenir pour acheminer tout ça vers le Rhin, le Main, et donc ça veut dire qu'on peut amener le pétrole, le gaz et les produits des industries que l'Europe fait délocaliser, on peut amener ça à bon marché vers Hambourg, vers Rotterdam. Donc c'est une voie que tout le monde veut absolument contrôler. Et ce qui est frappant, c'est que les Américains, eux, ont un autre projet, parce qu'il y a un aspect de rivalité, pardon, avec l'Allemagne qui est très très important. Il y a un projet depuis 94 au moins, avec des capitaux américains, qui est un pipeline qui s'appelle, je pense, le Trans-Balkan Pipeline Project, qui passerait par la Bulgarie, donc pas la voie que je viens de dire, mais plus au sud, la Bulgarie, et puis la Macédoine, juste en dessous du Kosovo, et l'Albanie. Je pense donc qu'en fait, on se bat pour contrôler l'accès de ces routes stratégiques du siècle qui commence.
Oui, toutes ces routes dont vous parlez, ce ne sont pas des vues de l'esprit que vous tracez sur des cartes, ce sont des projets tout à fait concrets. On a vu d'ailleurs aussi que dans la presse, disons, confidentielle, tous ces enjeux pétroliers stratégiques et toutes ces affaires de routes pétrolières sont totalement avoués et assumés, même par des militaires de l'OTAN.
Effectivement, il y a une grande différence entre la presse pour tout le monde, où on vous parle de guerre humanitaire ou alors de guerre incompréhensible, n'essayez pas de savoir, et la presse pour décideurs, le Financial Times, le Wall Street Journal, ou alors particulièrement les revues militaires, où ils sont très très francs, très brutaux, et où on dit qu'effectivement, c'est ça qu'il s'agit de contrôler. Il y a deux choses que je voudrais faire remarquer à propos de la Macédoine, c'est que en 92, les Américains envoient des troupes dans les Balkans. Est-ce que vous pensez qu'ils vont les envoyer là où il y a des problèmes et des combats, donc en Slovénie ou en Croatie ou en Bosnie? Absolument pas. Ils les envoient en Macédoine où il ne se passe rien. Donc ça, c'est déjà une indication très importante. Et la deuxième, c'est celle du général Jackson qui commandait la KFOR en Macédoine et puis au Kosovo, au moment, avant et pendant la guerre. Il a dit, nous resterons certainement ici longtemps afin de garantir la sécurité des corridors énergétiques qui traversent la Macédoine. Vous voyez, on ne parle pas de droits de l'homme, de protection des minorités, garantir les corridors énergétiques. Je pense que c'est ça qui est absolument décisif pour eux.
Par rapport à tous ces enjeux stratégiques pétroliers, quel est le but concret des États-Unis dans la région? C'est de s'y installer pour contrôler les routes, c'est de déstabiliser la région pour pouvoir mieux la contrôler. À long terme, c'est quoi?
Il y a tout ça. Il y a la route du pétrole que je viens de dire, il y a le fait de prendre pied en Europe même. Si vous lisez les textes des grands stratèges américains comme Brzezinski, par exemple, dans ce livre Le Grand Échiquier, qui dit les États-Unis doivent tout faire pour demeurer la seule superpuissance au monde et ils doivent décourager l'Europe et le Japon aussi d'avoir leur propre armée, leur propre système de défense militaire. Donc, ils doivent installer l'OTAN comme gendarme de la région pour leur permettre de contrôler. Je pense que ça, c'est assez fondamental pour eux et c'est pour ça qu'ils veulent être dans la région absolument et que donc ils ont provoqué ou excité des conflits pour justifier justement cette présence. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Je suis allé en décembre au Kosovo pour tourner un film sur la situation qui est absolument catastrophique, aussi bien pour les Serbes qui vivent, soit ils ont été chassés, la purification ethnique, soit ils vivent dans des ghettos sous la terreur, pas seulement eux, aussi toutes les autres minorités nationales du Kosovo, les Bratmans, les Turcs, les Égyptiens, parce qu'il y avait beaucoup de minorités nationales là-bas. Et donc c'est vraiment terreur, un système de mafia que l'UCK a installé avec la protection des États-Unis et de l'OTAN. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très frappant actuellement dans la région.
Mais on parle de présence à long terme des États-Unis. Il me semble pourtant que le candidat Bush, qui effectivement apparemment ne tient pas toutes ses promesses, mais il avait tout de même parlé d'un plus grand isolationnisme, d'un interventionnisme moins poussé, qui est de toute façon un credo des républicains américains. Est-ce qu'il va briser cette promesse électorale là aussi?
C'est vrai que Bush, le problème, c'est que il se retrouve face à plusieurs foyers de résistance et de problèmes. L'Irak tient toujours. En Palestine, l'intifada se développe nouveau. Le plan Colombia, entreprend aussi pour contrôler des ressources pétrolières, va rencontrer beaucoup de résistance, risque d'amener, pardon, les Américains dans un nouveau Vietnam. Donc, c'est pas encore clair si il voulait vraiment se désengager ou si c'était seulement un effet d'annonce électorale. Moi, je voudrais dire que vers la fin 95, Bill Clinton, qui était aussi candidat électoral, candidat présidentiel à ce moment-là, avait dit les boys, les GIs seront rapatriés aux États-Unis avant la Noël 95. Donc, vous pouvez voir où on en est. Je pense que c'est pas clair. En fait, les États-Unis, vous savez, ils ont toujours comme ça une tactique, une méthode de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, qui fait que en fait, ils peuvent s'adapter à plusieurs situations. Ils ont un but stratégique qui est bien clair, s'installer dans les Balkans, ce que je viens de dire par rapport à l'Europe, devenir vraiment l'arbitre de la région, mais la tactique politique, ça peut varier. S'ils pensent que soutenir Kostunica, c'est la meilleure carte et que ce gouvernement a une chance de durer, ce qui n'est pas évident parce qu'il y en a déjà de plus en plus de grèves et de mécontentement là-bas. Mais s'ils pensent que ce gouvernement est le meilleur atout, alors ils vont pas hésiter à se retourner contre les Albanais de l'UCK. Mais pour l'instant, je suis sceptique par rapport à ça. Je sais bien que maintenant, il y a évidemment des déclarations, que l'UCK, ce sont des extrémistes. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est qu'au début 98, M. Robert Gelbart, qui était l'envoyé spécial des États-Unis dans les Balkans, avait dit, il avait dit ça dans toute la presse internationale, l'UCK, ce sont des terroristes. Et effectivement, il y avait des rapports déjà à ce moment-là, des rapports parlementaires américains et autres, qui disaient, l'UCK assassine des policiers serbes pour provoquer des réactions, des représailles, aussi des civils serbes, aussi des civils albanais. Il avait le tort d'être, par exemple, marié à un Serbe ou d'avoir un petit job dans l'administration en place. Donc, effectivement, ils avaient tous les éléments pour dire que l'UCK était des terroristes. Mais 3 mois après cette fameuse déclaration de M. Robert Gelbart, tout d'un coup, on découvre que non, non, pas du tout. L'UCK, ce sont des combattants de la liberté et l'OTAN va devenir leur force aérienne, pratiquement. Et donc, on va commettre une guerre épouvantable, pas du tout propre, avec des milliers de victimes civiles. En Yougoslavie, avec la destruction de toute une économie, avec comme conséquence l'exacerbation de la haine entre Serbes et Albanais, rendant le problème beaucoup plus difficile, mais ça, c'est justement ce que les États-Unis veulent, c'est la traditionnelle politique de diviser pour régner.
Oui, donc on voit effectivement qu'on peut faire des revirements constants selon les besoins. D'un autre côté, tout ça paraît tellement téléguidé par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait des mouvements autonomes des peuples et de leur frustration qui les mène tout de même à faire des choses qui ne sont pas téléguidées de loin? Ça joue un rôle aussi, non?
Absolument. Il y a évidemment des problèmes là sur place, il ne s'agit pas de les nier. Moi, je pense que les grandes puissances par rapport à ces problèmes ne cherchent pas du tout à apporter des solutions, mais seulement à les utiliser au sens de leur avantage. Je rappelle que les services allemands ont fourni des armes d'abord à Franjo Tuđman, le Vlaamsblok de la Croatie, à partir des années 80, donc bien avant que la guerre éclate, parce que leur but était de faire éclater les Yougoslavies. Les mêmes Allemands ont fourni des armes à l'UCK et ça a provoqué l'escalade du conflit en 98. Donc je crois que les grandes puissances ne sont par rapport à ça absolument pas la solution. Elles sont le problème en fait. Et ce qu'il faudrait, c'est rétablir absolument, je crois qu'on doit tout faire, les progressistes doivent tout faire pour rétablir le dialogue entre les peuples, entre les nationalités, y compris entre les Serbes et les Albanais. C'est la seule solution, parce que vous savez, les Albanais sont aussi victimes de cette situation. Regardez en Albanie, on a installé un régime pro-occidental. Le favori des Américains à l'époque, Berisha, a protégé un système d'escroquerie qui s'appelait les pyramides, et tous les Albanais, les simples gens, ont carrément eu leurs économies volées par ce système-là. Il y en a énormément qui doivent émigrer à l'étranger pour chercher du boulot. Au Kosovo même, la situation de beaucoup d'Albanais n'est absolument pas rose. La mafia liée à l'UCK assassine aussi des Albanais, on ne le dit pas, mais c'est très très important. On les assassine pour leur prendre leur maison, leur commerce ou des femmes tout simplement. Donc la criminalisation de cette société fait que beaucoup d'Albanais en sont victimes aussi. Donc moi je trouve qu'on doit tout faire pour justement appeler à ce dialogue, que les nationalités se parlent à nouveau, essayer de trouver des solutions qui qui garantissent les droits des uns et des autres et qui garantissent, parce que ça c'est la condition de tout, une résistance commune face aux ingérences des grandes puissances.
Vous avez parlé du rôle de l'Allemagne, ce qui nous amène à l'Union européenne. D'une part, les États-Unis et l'Union européenne sont alliés au sein de l'OTAN, mais d'autre part, on se rend tout de même compte qu'il y a des intérêts économiques relativement opposés. Il y a d'ailleurs plusieurs routes de pétrole qui sont rivales, d'une part des projets américains, d'autre part des projets européens qui sont antagonistes. Comment est-ce qu'il faut, quelle lecture est-ce qu'il faut avoir de cette rivalité d'une part et de cette alliance de l'autre? Quels sont les enjeux cachés là-dedans?
Je pense que vous le dites bien, je pense qu'il y a effectivement alliance et rivalité. L'alliance, c'est que, ensemble, ces politiques qui sont dictées en fait par les multinationales, parce que les politiques comme ça ne se décident pas au niveau du Parlement, ni même du gouvernement, ce sont les multinationales qui décident ce qu'il faut faire dans telle ou telle région, en fonction de leurs projets. Et je pense que là, d'une part, ils sont tous d'accord que le gâteau doit leur revenir à eux, aux multinationales, et pas aux peuples de la région, qui n'ont rien à décider, qui ne peuvent recevoir que les miettes. Mais en même temps, entre particulièrement les États-Unis et l'Union européenne, il y a une bataille pour savoir qui va prendre la grande part du gâteau. Et là, je ne suis pas du tout pour qu'on se fasse des illusions sur le fait que nos multinationales européennes à nous seraient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus morales, beaucoup plus chic, beaucoup plus civilisées que les autres. Regardez dans l'actualité ce qu'on apprend sur Elf et leur soutien aux pires saloperies contre en Afrique, leur coup d'État, leur contre-coup d'État, leur utilisation de barbouzes. Et ça, on en apprend un ou deux cas, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Et je pense qu'il n'y a aucune moralité en plus du côté des multinationales européennes. Il faut passer à des points.
Par rapport à tous ces enjeux pétroliers, quelle peut être la suite des événements aujourd'hui concrètement en Macédoine? On voit que la guerre civile risque d'éclater complètement. On voit qu'un jour l'OTAN dit qu'il risque d'y avoir intervention, l'autre jour c'est exclu, etc. Sachant tout ce qu'on sait comme ça, quel peut être concrètement, quels peuvent être les scénarios pour la suite des événements?
Je crois qu'il y en a plusieurs. C'est clair que les États-Unis ont plusieurs possibilités, comme je l'ai dit, pardon, et ils ont le choix entre soit renverser leurs alliances, comme ils ont déjà fait, par exemple entre Iran, Irak, Syrie, et se dire OK, on va soutenir à fond Kostunica et Djindjic. Soit ils peuvent, comme ils le font maintenant, je pense, soutenir en sous-main l'UCK. Officiellement, ils la condamnent, mais en sous-main, ils la soutiennent. Vous savez, il faut bien regarder la carte aussi. À partir d'où l'UCK a-t-elle mené son offensive, d'abord contre la vallée de Preševo en Serbie, et puis contre la Macédoine, à partir de la zone américaine. Tout ça se passe juste à côté des bases américaines. Alors, on ne va pas me faire croire que des milliers de soldats américains ne sont pas capables d'arrêter ces événements-là. Donc là, je pense, moi, que l'option numéro un des États-Unis dans la région, ça reste de créer ce que j'appellerais un Israël albanais, c'est-à-dire un État quasiment fantoche, un État qui leur devrait absolument tout et qui serait en quelque sorte leur porte-avions dans la région. Mais ça peut se faire avec des va-et-vient, ça va certainement se faire avec discrétion et en se cachant, parce que les Européens ne sont pas tellement d'accord, ils ne voudraient en tout cas pas qu'on modifie les frontières, ils savent que ça provoquerait une internationalisation du conflit et que ça provoquerait, aurait beaucoup de chances de provoquer un embrasement. Les Européens, pour l'instant, n'en veulent pas. Donc, c'est pas évident de voir de quelle façon ça va évoluer. Je crois que de toute façon, dans un premier temps, les Américains seront très contents de jouer la stratégie de la tension et de provoquer, de voir qu'il y a une petite escalade. Vous savez, quand vous avez une base militaire dans une région, vous ne pouvez pas la justifier s'il n'y a pas de problème dans la région. Donc vous avez besoin d'un problème. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi lorsque j'étais en décembre au Kosovo, c'est que les Américains ont construit là une base énorme qui s'appelle Camp Bondsteel. Elle est énorme avec des McDo, des saunas. Elle est tellement grande qu'elle est divisée en Uptown, Midtown et Downtown. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en décembre, j'ai filmé ça, ils étaient encore en train d'agrandir cette base, alors qu'un gouvernement démocratique, comme ils disent, avait été élu, qu'il leur est tout à fait favorable et que donc il ne devrait plus y avoir de problème. Ils agrandissaient pourtant cette base. Donc moi, je crois qu'ils sont là pour longtemps.
Pour terminer, en ce qui concerne la presse, qui est tout de même votre domaine de prédilection, on constate aujourd'hui que tous ces enjeux sous-jacents sont totalement absents de la presse et qu'il y a aussi une certaine amnésie par rapport au passé récent, notamment celui du Kosovo. Dans la presse, on lit finalement que des relations, des faits sur le terrain et à la rigueur, on relève pour les plus téméraires quelques contradictions de l'OTAN. Je suppose que ce vide et ces absences ne vous étonnent pas?
Non, il y a effectivement quelque chose qui est choquant là maintenant, c'est qu'on nous dit que ceux qui étaient blancs hier sont noirs aujourd'hui et l'inverse. On ne nous donne aucune explication là-dessus. Et effectivement, on nous cache les enjeux. Maintenant, je pense qu'il faut être nuancé et je n'ai pas envie de dire la presse. Je pense qu'il y a différentes sortes de presse. Il y en a effectivement une presse perroquet qui répète ce que l'OTAN et les pouvoirs dominants nous disent, et puis il y a quand même certains journalistes qui essaient de faire leur métier et de comprendre. Je reviens des Pays-Bas où on a donné une grande conférence pour le lancement de l'édition néerlandaise de mon livre. J'ai été extrêmement étonné. Les grands médias, une série de grands médias de la presse écrite, de radio et de télévision, se sont précipités pour avoir des interviews, parler du bouquin et donner écho à ce que je viens de vous dire. Donc j'ai dit la même chose et ça passe. Il y a eu quelques cas de censure évidents, notamment quand un politicien gouvernemental a dit je ne vais pas discuter avec Colomb, donc on m'a retiré de l'affiche. Mais la plupart des journalistes que j'ai rencontrés ont quand même essayé de faire leur travail et ils ont donné beaucoup d'écho à ça. Ça passe par exemple à la télévision, c'est passé hier soir à la télévision hollandaise. Moi, je voudrais dire que je voudrais lancer un appel en fait à tous les journalistes honnêtes aussi en Belgique pour qu'on relance le débat sur ces questions. Oublions les noms d'oiseaux qu'on a pu se lancer dans tous les sens autour de ça. Et maintenant, faisons le point froidement, calmement. L'OTAN, c'est clair qu'ils nous ont raconté vraiment n'importe quoi. Ils nous ont non seulement raconté des histoires sur la guerre propre qui n'étaient pas du tout, mais aussi, n'oublions pas l'affaire de l'uranium et de leurs armes pas du tout propres, mais aussi donc sur les motivations et sur les enjeux, les véritables objectifs de ces guerres, qui est la chose la plus importante. Là aussi, on nous raconte n'importe quoi avec tous ces revirements d'alliance maintenant. Il serait donc en même temps qu'on fasse un peu le bilan de tout ça, qu'on tire les leçons et qu'on prenne des mesures pour éviter qu'à la prochaine fois, on ait de nouveau une info tellement militarisée, tellement le doigt sur la couture du pantalon, parce qu'une mauvaise info, ça a des conséquences. C'est pas simplement ah, on s'est trompé, on rectifiera. Une mauvaise info, ça permet aux généraux, à l'industrie, pardon, des armements et aux multinationales de recommencer des guerres pour le pétrole et pour toutes les richesses naturelles et les marchés qu'ils veulent contrôler. Et ces guerres, elles font les victimes. Donc, en tant que journalistes, nous avons tous une responsabilité par rapport à ça. Est-ce que nous laissons passer la mauvaise info ou est-ce que nous la mettons en doute et est-ce que nous lançons le débat? Donc, c'est un appel que je voudrais lancer en espérant qu'il sera entendu.
En ce qui concerne la Belgique spécifiquement, vous avez bon espoir de voir cet appel suivi et de voir apparaître le débat dans les colonnes, pour ne citer que cela, du Soir et de la Libre Belgique?
Eh bien, écoutez, je voudrais faire une proposition, un appel public là. Je pense que ce serait le moment d'organiser un débat sur tout ça. Il y a à l'Université libre à Bruxelles et un peu ailleurs dans le pays, il existe des facultés de journalisme, des communications, des gens qui suivent les médias. Pourquoi ne pas organiser un jour un débat public ou un séminaire sur ces questions et faire un peu tous le point, que chacun s'explique, essayer de voir comment on peut améliorer l'info sur la guerre pour éviter tous ces dégâts.
Fallait une réponse bien diplomatique. Merci beaucoup. Précisons que le livre dont parle Michel Collomb dans cette interview s'intitule Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, et qu'il est paru l'année dernière aux éditions Epo. Comme le dit Michel Collomb, il ne faut peut-être pas généraliser en parlant des médias, et je tiens donc à relever une interview très éclairante, diffusée hier dans Matin Première sur la RTBF Radio et réalisée par Jean-Pierre Jacquemin. C'est Jean-Pierre de Waal, professeur de sciences politiques à l'ULB, qui répondait à ces questions. Et même s'il n'a pas parlé pétrole ou enjeux stratégiques, on peut dire qu'il a la mémoire moins courte que les journalistes de la presse écrite. Ainsi, Jean-Pierre de Waal rappelait en vrac que les extrémistes d'aujourd'hui portent les mêmes armes et bénéficient plus que probablement de la même infrastructure militaire que l'UÇK du Kosovo. Que ce sont les Occidentaux qui leur ont fourni ces armes, que beaucoup d'horreurs de l'UÇK ont été légitimées parce qu'elles servaient la lutte contre Milosevic, qu'on a fermé les yeux sur l'épuration ethnique des Serbes du Kosovo, etc., etc. Toutes des choses qu'on ne lit pas dans la presse. Il y avait aussi un passage très éclairant sur les objectifs des États-Unis dans la région qui rejoint certaines des analyses de Michel Collomb. Pour Jean-Pierre de Waal, il est tout à fait invraisemblable que ni les services de renseignement de l'OTAN, ni les satellites américains n'aient vu qu'une organisation militaire était en train de se mettre en place. Ils sèmeraient donc délibérément le bordel, soit pour justifier leur présence, soit pour se retirer en laissant l'Europe déstabilisée. Pour Jean-Pierre de Waal, ce n'est qu'une thèse et il faut rester prudent, mais il a au moins le mérite d'avoir exposé cette thèse et il a été le seul à l'avoir fait cette semaine dans les médias. Pour conclure, il souligne encore à juste titre que ce que font les Occidentaux, c'est légitimer à chaque coup les personnes qui prennent les armes, puisqu'il faut à chaque fois visiblement prendre les armes dans la région pour que les Occidentaux veuillent bien investir de l'argent dans la région. Fin de citation. Et pour lui, c'est bien l'argent qui manque, puisqu'il parle d'une situation économique catastrophique dans toute la région des Balkans et même d'un Hiroshima social dans la région macédonienne de Tetovo où se déroulent les combats actuels. Comme quoi, on peut parfois découvrir des analyses sensées dans les médias. Il suffit pour les journalistes de mettre leur micro sous le nez d'un interlocuteur soigneusement choisi et de lui poser quelques bonnes questions, et le tour est joué. Puisque nous sommes dans le pétrole, restons-y. Il n'y a pas que dans les Balkans que l'industrie pétrolière a un effet ravageur sur les populations et la politique locale. On savait déjà que Total refuse obstinément de quitter la Birmanie, qui est une dictature militaire sanglante qui réduit sa population en esclavage, notamment au profit des sociétés pétrolières. Quelques députés belges en ont fait les frais lorsqu'ils étaient allés plaider lors d'une assemblée générale du groupe Total à Paris pour le retrait de Birmanie. Ils s'étaient tout bonnement fait huer par les actionnaires qui étaient là, eux, pour parler gros sous. On a également appris cette semaine, à l'occasion du procès de Roland Dumas dans l'affaire Elf, que la société Elf utilisait les services d'un Belge, le très louche Jacques Monsieur, pour fournir des armes à différentes factions du Congo-Brazzaville. La tragique ironie, c'est qu'en 1997, il fournissait tant le putschiste du moment, Denis Sassou Nguesso, que le potentat en place, Pascal Lissouba. Mais ça n'a rien d'étonnant, puisque ni le pétrole, ni l'argent n'ont de couleur politique, on le sait bien. À l'autre bout de l'Afrique, c'est maintenant le Soudan qui est en train de tomber en proie à la fièvre de l'or noir. Et comme le soulignait un article dans The Morgan ce week-end, au Soudan, le pétrole emporte tout sur son passage. Comme vous ne lirez pas cet article dans le reste de la presse, je me permets de vous en répercuter le contenu. En avril 1999, la société suédoise Lundin Oil annonçait qu'elle avait trouvé dans le sud du Soudan une réserve de pétrole d'excellente qualité, d'au moins 300 millions de barils. Le problème, c'est que le sud du pays est très instable depuis des années et que c'est le territoire de l'Armée populaire de libération du Soudan, la SPLA. Lorsque la SPLA s'est mise à attaquer les installations pétrolières au début de l'année dernière, Lundin Oil a annoncé son retrait du pays. Le gouvernement soudanais, qui attendait des millions de pétrodollars, a décidé que ça ne se passerait pas comme ça et a lancé une offensive que l'on pourrait qualifier de radicale, mais le mot serait faible. L'idée, c'était d'éliminer toute vie autour des installations pétrolières. Par conséquent, l'offensive visait non seulement les rebelles responsables des attaques, mais toute présence humaine dans la région. La tactique était assez simple. Le nettoyage commençait par un tapis de bombes largué par de gros bombardiers Antonov, qui était suivi d'une vague d'hélicoptères venus mitrailler ceux qui avaient eu l'impudence de survivre, pour terminer le travail en envoyant des troupes au sol raser ce qui restait des villages. Plus de 10 000 personnes ont fui à pied, ce ratissage en règle. En 10 mois, le boulot était terminé et la région nettoyée de ses habitants indésirables. Comme on dit en termes diplomatiques, la stabilité était revenue. Lundin Oil, la société scandinave, en a pris acte avec satisfaction et a déclaré il y a 2 mois que toutes les conditions sont désormais remplies pour reprendre l'exploitation du champ pétrolifère. Aujourd'hui, Lundin a tout plein de projets d'expansion dans la région et envisage de prolonger la route du pétrole au Sud-Soudan, ce qui entraînera sans doute de nouveaux nettoyages du même type. Dans le sud-est du pays, c'est la société canadienne Talisman qui extrait du pétrole. Et là aussi, on semble appliquer la recette. D'après des religieux étrangers, 48 villages ont été brûlés et 55 000 personnes chassées de chez elles, rien que pour l'année dernière. En 1999, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies, Leonardo Franco, qui faisait état de la destruction de centaines de villages et de 17 églises. En échange, il est évident que les avions et les hélicoptères utilisés pour faire le sale boulot peuvent librement disposer des aérodromes privés de Lundin Oil et de Talisman. Évidemment, cette stabilité nouvelle est très attrayante pour le secteur pétrolier et plusieurs autres compagnies ont des projets d'avenir dans le sud du Soudan. C'est ici qu'entrent en jeu de vieilles connaissances, à savoir les sociétés françaises Elf et Total et la belge Petrofina. Depuis les scandales que j'évoquais tout à l'heure, toutes ces grosses boîtes ont succombé à la fusionnite aiguë et ne forment aujourd'hui plus qu'une seule qui s'appelle, je vous le donne en mille, Total Fina Elf. Au début des années 80, Total était l'une des premières compagnies à effectuer des tests de forage dans la région soudanaise, mais elle s'était retirée en 1985, précisément pour des raisons de sécurité. Cependant, les temps changent et en octobre 1999, devant l'attitude constructive des autorités soudanaises, Total Fina a annoncé que grâce à l'amélioration de la sécurité dans la région, le moment était venu de retourner investir au Soudan. Il ne faut pas être devin pour imaginer que la région de la ville de Bor, là où se trouve la concession de Total Fina, les services de nettoyage risquent également de passer. Déjà, les autorités limitent fortement les activités des ONG présentes sur place pour pallier la situation humanitaire catastrophique due à la guerre entre rebelles et armées régulières, et le gouvernement attise la haine ethnique pour diviser les populations. De plus, l'arrivée des pétroliers a fait basculer la guerre en faveur du gouvernement, puisque le million de dollars qu'encaissent chaque jour les autorités est entièrement réinvesti dans l'armée, qui a été modernisée de façon spectaculaire. Les pétrodollars ont même permis au Soudan de mettre en place sa propre industrie d'armement, ce qui fait que les importations d'armes ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Malgré l'évidence de tous ces effets pervers, les compagnies pétrolières occidentales estiment que leur présence a une influence bénéfique sur le pays. De Pont de chez Talisman écrivait récemment dans une publication spécialisée que rester au Soudan est moralement la meilleure décision parce que cela améliore la vie de la population soudanaise. Pour Talisman, sa présence au Soudan crée des oasis de paix. Si quelqu'un connaît un mot qui veut dire à la fois cynique, hypocrite et détestable, qu'il me l'envoie parce qu'il manque à mon vocabulaire et j'aimerais bien l'apprendre. En attendant, j'utiliserai le mot talisman. Pour tester à quel point Total Fina Elf est talisman, donc, j'ai appelé tout à l'heure le service presse et communication de la société à Bruxelles pour demander une réaction à l'article du Morgen et pour voir quel était le point de vue de la société sur ces projets soudanais et leurs conséquences. La dame m'a dit qu'elle n'avait pas lu l'article, mais qu'elle devait demander au siège de Paris si la société communique sur ce genre de choses. 1 minute 30 plus tard, elle me rappelait, apparemment le conciliabule n'avait pas duré très longtemps. La réponse c'était: nous ne communiquons pas sur des projets qui ne sont pas encore finalisés. Au revoir. Je rappellerai donc une fois que le projet sera finalisé, mais je sais d'avance quelle sera la teneur de la communication. Je vous la donne en avant-première. Nous ne savions pas, mais tout cela est du passé. Maintenant, rester au Soudan est moralement la meilleure décision parce que notre présence crée des oasis de paix. Et on ne pourra pas leur donner tort. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier vous-même. Les régions pétrolières sont aujourd'hui des oasis de paix où règne le silence, un silence de mort.
Steppe au phosphore, dans les champs de lithium, dans les fleurs au mercure, sous un soleil de plomb, sur un nuage de soufre, gorgé de plutonium, dans le vent désertique, chauffé par les torchères, des périques en furie, du haut d'un mirador, j'aperçois les barbares envahir l'horizon. C'est pas les petits claqueurs, les enfants sans futur, les casseurs de banlieue. C'est pas les affamés du charité business. Pas non plus les chômeurs du carbone triomphant d'un gros port arrogant. Tirant sur son cigare, traite de fainéant. Lâchez femmes et enfants, planquez tous vos dollars, descendez aux abris. Abîmez les blindages, condamnez les entrées, évitez les sorties. Préparez la survie, rationnez l'oxygène, comptez-vous, faites la peine. C'est les nouveaux barbares qui cachent l'horizon comme un vol de sauterelles. Et les nouveaux barbares, tuant de suffisance sur nos espoirs en ruine. Les grands dégraisseurs de société, amasseurs de profits, générateurs de haine, allumeurs de conflits. Regardez les pollués, notre terre et notre eau. Ricaneurs politiques, arnaqueurs de prestige, soyeurs de culture, abrutisseurs d'âme, parfois médiatique, je surgirai fatal de la nuit métallique, tout vêtu de cuir noir, exterminateur égoïseur, de mon œil synthétique, jaillira le rayon de justice immanente. Exterminateur équalisateur, bien que cybernétique, mon sourire montrera mon plaisir à faire ça. exterminateur équalisateur.
Je vous avais parlé au début de cette année de l'assaut sur les prisons turques qui avait fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés. Fin décembre 2000, cela faisait plusieurs semaines que des centaines de prisonniers politiques turcs observaient une grève de la faim pour protester contre la mise en service des nouvelles prisons de type F qui isoleraient les prisonniers par petits groupes de deux ou trois alors qu'ils sont aujourd'hui regroupés en grands dortoirs. La crainte des prisonniers, qui ne paraît pas infondée, était que cet isolement faciliterait la torture et les exécutions sommaires qui sont monnaie courante dans les prisons turques. L'armée turque avait donc lancé un assaut généralisé sur les prisons pour briser la grève de la faim et la communauté internationale s'était mollement inquiétée de la violence de cette répression. Une commission d'enquête de People's Rights Watch s'était rendue sur place et avait ramené des témoignages, des photos et des vidéos horrifiants qui attestaient notamment de l'utilisation de lance-flammes pour déloger les prisonniers sans armes, juste pour donner une idée du type de répression choisie. Cette commission d'enquête avait suscité peu de réactions dans la presse. J'avais relevé à l'époque un article dans La Libre Belgique qui tirait surtout sur la commission d'enquête de People's Rights Watch, qui serait soi-disant d'extrême gauche et qui raconterait par conséquent n'importe quoi. L'article était tellement consacré à enfoncer cette commission d'enquête qu'il ne restait plus beaucoup de place pour relater ses conclusions. La teneur implicite de l'article, c'était qu'on envoie des gens sérieux et on verra ce qu'ils disent. Les gens sérieux, ce sont par exemple ceux du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le CPT pour faire bref. Le CPT est un organe du Conseil de l'Europe, une organisation dont fait partie la Turquie. Comme les gens du CPT sont sérieux, justement, leurs méthodes et leur langage sont extrêmement prudents, pour ne pas dire pire. Pour vous donner une idée, voici quelques extraits du rapport que le CPT a publié récemment. Le CPT commence par reconnaître que la mission des forces de l'ordre était ardue et parfois périlleuse et que les forces de l'ordre se sont heurtées à des barricades et à une violente résistance. Tout de suite, on imagine les gendarmes tout démunis avec leurs pauvres chars et leurs piètres lance-flammes face aux impénétrables barricades des prisonniers qui n'ont plus mangé depuis 8 semaines. Le rapport est également truffé de félicitations à l'attention des autorités pour avoir été capable de mettre en service de nouvelles prisons avant la date prévue afin d'y transférer les prisonniers évacués après l'assaut. La délégation du CPT a aussi été impressionnée des soins médicaux prodigués aux grévistes de la faim dans les prisons et les hôpitaux. Naïvement, le rapport conclut que pour mettre un terme aux grèves de la faim, un processus d'adaptation, d'explication et de mise en confiance sera nécessaire. Des mesures seront également nécessaires afin de convaincre les détenus qu'ils n'ont pas à craindre pour leur vie dans les prisons de type F. Tout ne serait donc qu'une question d'explication et de mise en confiance, alors qu'on connaît le triste bilan des prisons turques en matière de droits de l'homme. Mais malgré ces extrêmes précautions diplomatiques, le rapport est révélateur. D'après le CPT, les informations recueillies laissent supposer que les méthodes des forces de sécurité n'ont pas toujours été proportionnées aux difficultés rencontrées. C'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Un seul exemple est cité, celui du dortoir des femmes de la prison de Bayram Pacha à Istanbul. Sur 27 femmes qui s'y étaient retranchées, 6 sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées, notamment brûlées. Les 27 femmes n'ont opposé aucune résistance violente, ce qui n'a pas empêché les gendarmes de leur tirer dessus avec des grenades lacrymogènes et à balles réelles, et ce, pendant plusieurs heures. À un moment donné, les gendarmes ont mis le feu au dernier étage du dortoir, accidentellement ou non, le rapport ne se prononce pas, et ils ont laissé brûler alors qu'ils ont été immédiatement avertis que les détenus étaient la proie des flammes et qu'ils disposaient du matériel adéquat, notamment des tuyaux d'incendie. Fin de citation. Par conséquent, toujours très timoré, Le CPT demande gentiment qu'une enquête approfondie et indépendante soit menée sur cette intervention et précise qu'il serait également souhaitable que des enquêtes semblables soient menées sur toutes les interventions effectuées à cette époque dans des établissements pénitentiaires. En clair, on est face à un rapport qui, malgré sa diplomatie extrême, ne peut pas faire autrement que d'accuser les Turcs d'avoir laissé rôtir des prisonnières, et cet incident n'est repris qu'à titre exemplatif. Il semble donc que ce rapport ait une certaine valeur médiatique, d'autant plus que la Turquie frappe à la porte de l'Union européenne et que cette semaine encore, elle lui a fait les 12 yeux en promettant d'abolir la peine de mort. Pourtant, un seul journal, à ma connaissance, a parlé de ce rapport et il ne l'a pas fait très bien. L'article paru dans Demorgue fait constamment l'amalgame entre les rapports du Comité pour la prévention de la torture et celui de People's Rights Watch, qui ne prenait lui aucune précaution diplomatique. Il s'ensuit un article sensationnaliste qui donne l'impression que le rapport du CPT est incendiaire. Il note tout de même par contre que le CPT caresse aussi la Turquie dans le sens du poil et il relève toujours, surtout à juste titre que le CPT ne fait aucune remarque sur le fait que la Turquie ait 11 000 prisonniers politiques, dont la majorité est emprisonnée pour des délits d'opinion. Donc un article plein de défauts, mais un article quand même. Par contre, dans La Libre Belgique, qui avait consacré tout un article à enfoncer une commission d'enquête qui ne lui convenait pas, on ne retrouve pas un mot sur le rapport du CPT, qui manie un style et un ton qui sont pourtant beaucoup plus proches de celui de La Libre Belgique, justement. Mais manque de bol, la journaliste qui s'en occupe habituellement a pris une semaine de congé pour cause de déménagement. Elle m'a donc conseillé de m'adresser à Gérald Papy, qui m'a candidement avoué qu'il n'avait jamais entendu parler de ce rapport et qu'il ne prévoit pas par conséquent d'y consacrer un article. En conclusion, deux possibilités. Soit il est plus confortable de critiquer une petite délégation de médecins et d'avocats sous prétexte qu'ils sont engagés qu'un pays ami qui frappe à la porte de l'Union européenne. Soit La Libre Belgique manque tout simplement de curiosité et ses journalistes ne surfent pas sur Internet et ne lisent pas les autres journaux. À vous de choisir lequel de ces deux cas de figure vous déprime le plus.
Dans un pays extrême froid, on se torche avec les doigts, y'a plus du pain pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats, les syndicats y'en a pas. Y'a plus de pauvres, y'a juste l'État et les autres. Si t'es pas de la bonne couleur, t'es transparent. Dans un pays d'extrême droite, la justice porte le képi, peine de mort au coin de la rue. Dans un pays d'extrême droite, on n'y parle beaucoup de Dieu, parce que ça fait longtemps qu'il a quitté les lieux. La musique est militaire, ses instruments sont la haine et la guerre. Dans un pays d'extrême droite, tu dis pas non à tout bout de champ, ou alors au bout du champ de tir. Dans un pays d'extrême droite, les femmes veulent bien avorter, mais à trois coups de baïonnette. On se torche avec les doigts, y'a plus d'humain pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats. Les syndicats, y'en a pas. La musique est militaire, ces instruments sont la haine et la guerre.
On vous aura prévenu.
La semaine dernière, Alter Echo était entièrement consacré au mouvement zapatiste et à sa marche sur la ville de Mexico, une marche destinée à demander le respect et la dignité pour les populations indigènes. Arrivé à Mexico, le but des zapatistes était de convaincre la classe politique mexicaine de reprendre le dialogue en remplissant les trois conditions posées par les zapatistes: libération des prisonniers zapatistes, évacuation de 7 camps militaires sur les 259 que compte le Chiapas et adoption de la loi qui a résulté des accords de San Andrés en 1996 et qui garantit aux peuples indigènes une reconnaissance et des droits constitutionnels. Ces conditions n'ont pas été remplies et le président Fox a préféré faire au sous-commandant Marcos des propositions très médiatiques, comme un tête-à-tête entre les deux hommes ou des pourparlers limités avec une petite délégation du Congrès mexicain. Aujourd'hui, voyant que Fox et son gouvernement n'iraient pas plus loin et ne rempliraient pas les conditions posées malgré toute leur apparence de bonne volonté, les apatistes ont décidé de lever le camp. Ils ont publié un communiqué que je vous livre dans une version très résumée pour vous informer de la suite des événements. Frères et sœurs, le gouvernement de Vicente Fox a été plus attentif à l'impact médiatique de la marche qu'à l'évident soutien populaire qu'a éveillé la marche pour la dignité indigène. Au lieu d'accomplir les trois signes afin de profiter du séjour dans le district fédéral d'une délégation de l'EZLN, l'armée zapatiste donc, pour renouer le dialogue, M. Fox s'est consacré à lancer des déclarations à tort et à travers, sans fait qu'il les soutienne. Durant 7 jours, depuis le 13 mars passé, l'EZLN a attendu avec patience que le Congrès accepte sa disposition au dialogue digne et respectueux. Nous, les peuples indiens, nous ne marchons et ne marcherons pas en frappant aux portes pour supplier qu'ils nous écoutent et nous répondent. Le Mexique se définit maintenant par avant et après la marche de la dignité indigène, une marche qui inclut tous les peuples indiens et des centaines de milliers de Mexicains. Nous, les apatistes, nous nous montrons ouverts au dialogue, nous nous sommes désarmés pour cette mobilisation, nous nous sommes exposés ouvertement à n'importe quelle agression en visitant des dizaines de places publiques au long de plus de 3000 km. Maintenant, plus que jamais, la séparation entre le gouvernement et le peuple est non seulement marquée, mais aussi antagoniste. Le gouvernement défie ouvertement la société et la regarde avec mépris. Pour tout ce qui précède, le ZLN, l'armée zapatiste, a décidé de mettre fin à sa présence dans la ville de Mexico et de commencer son retour aux montagnes du sud-est mexicain. L'entêtement de la classe politique est clair, la reconnaissance constitutionnelle des droits indigènes doit exister et nous chercherons de nouvelles formes de lutte pour y arriver. Le prochain jeudi 22 mars 2001, la délégation zapatiste réalisera un acte d'adieu face au Congrès de l'Union pour remercier le peuple mexicain, la communauté internationale et la ville de Mexico de l'appui et de l'hospitalité reçus durant la marche et durant son séjour dans le district fédéral. Le ZLN appelle la société civile internationale et les comités de solidarité dans le monde entier pour que ce jour 22 mars, ils fassent entendre leur voix avec la nôtre et rejettent la politique d'exclusion que pratiquent les pouvoirs exécutifs et législatifs mexicains. Le vendredi 23 mars 2001, la délégation zapatiste repartira de la ville de Mexico à destination des montagnes du sud-est mexicain. Dans nos communautés, nous informerons du double résultat de la marche, l'entêtement de ceux qui gouvernent et le grand appui des gens du Mexique et du monde. Frères et sœurs, nous partons avec toutes et tous ceux que nous sommes, nous reviendrons. Signé Comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale, Mexico, mars 2001. Donc les apatistes constatent le blocage et décident de repartir au Chiapas ce vendredi et ils chercheront de nouvelles formes de lutte pour parvenir à leur fin. Le monde attend avec curiosité et Alter Echo vous tiendra évidemment au courant. Puisque c'est la journée mondiale du sommeil, je vous souhaite une excellente nuit en espérant que vous ne vous étiez pas déjà endormi. Pour vous bercer, je vous rappelle que cette émission est rediffusée le vendredi à 14h et que vous pouvez également la retrouver sur internet à l'adresse qui suit www.multimania.com/alterecho en un seul mot. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.